Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous et mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute. Mais surtout, partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Vous avez désormais la possibilité de faire un don pour soutenir Milkshaker et par la même occasion soutenir une association. En effet, 50% des dons seront reversés à des associations qui en ont besoin. Ce mois-ci et jusqu'au 1er juillet 2021, Milkshaker commence très simplement par soutenir IJ, une association pour laquelle je suis bénévole en tant qu'ostéopathe, fondée par Catherine Ribus et qui a pour vocation de prodiguer des soins ostéopathiques gratuits pour les femmes et les enfants. J'y tiens tout particulièrement car c'est cette association qui m'a permis de connaître Catherine et c'est par ce biais que nous nous sommes découvertes et lancées dans l'aventure folle de créer en région parisienne un centre de soins pour les femmes et les enfants. Pour plus d'informations et pour faire un don, rendez-vous donc sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, rubrique Milkshaker. Et comme il se dit couramment que c'est avec de petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, je vous précise qu'il n'y a pas de petits dons. Et maintenant, place à l'épisode. Je vous présente aujourd'hui Camille, une jeune maman qui va se faire bousculer par l'allaitement. Camille s'était renseignée, l'allaitement pour elle ce n'était pas une option, c'était son chemin. Mais spoiler, ce chemin va être franchement cabossé. Ça commence très vite, avec un bébé qui tète mal, qui présente des freins restrictifs au beau milieu de notre cher confinement de mars 2020 alors que la prise en charge est en pause. Mais ce n'est pas tout, sa petite fille développe aussi rapidement un RGO. Entendez reflux gastro-œsophagien ou reflux pathologique. Et comme si cela n'était pas suffisant, ce sera triplé de différentes allergies alimentaires. Camille n'imagine pas une seconde arrêter son allaitement. Alors envers et contre toutes ces difficultés, elle s'accroche, elle décide de libérer sa fille de ses freins restrictifs et de changer son régime alimentaire pour que sa petite fille puisse bénéficier de son lait, sans douleur. Au programme Persévérance, Soutien et Résilience, bienvenue Camille dans la team des Milkshakers. Belle écoute. Bonjour Camille, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour Charlotte, merci beaucoup.
Camille, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie, de qui es-tu la maman ?
Alors du coup, je m'appelle Camille, j'ai 24 ans, j'habite en Ile-de-France et je suis la maman d'une petite fille de 14 mois qui s'appelle Evie. Et sinon, au niveau professionnel, moi je suis gestionnaire de sinistres en assurance construction. Et à côté de ça, je suis passionnée de cuisine. Voilà.
Ok, très bien. Alors Camille, comment ça s'est passé pour toi les démarrages d'allaitement ? Comment t'avais envisagé les choses ? Pour toi, est-ce que c'était une évidence ? Ou au contraire, est-ce que t'avais des a priori sur l'allaitement ? Comment t'es arrivée dans ton expérience de maman allaitante ?
Alors du coup, moi, pendant toute ma grossesse, qui s'est bien passée par ailleurs, J'avais décidé, j'avais fait le choix d'être mère allaitante. En fait, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Sachant qu'en plus, je suis penchée sur tout ce qui est naturel, zéro déchet, etc. Bah, en fait, c'était une continuité. Et du coup, je me suis bien renseignée à travers des livres, à certains groupes Facebook, des comptes Instagram, notamment celui de Camille Lolo Helpeuse. Et plein d'autres. Parce que même si l'allaitement c'est naturel, c'est pas inné, il y a des choses à savoir avant de commencer un allaitement afin de mener un bon allaitement.
Et alors, comment ça s'est passé quand ta petite Evie est arrivée? Est-ce que l'accouchement s'est bien passé? Est-ce que tu as pu la voir rapidement avec toi? Comment se sont passés ces démarrages d'allaitement?
Alors, du coup, j'ai accouché dans une maternité par voie basse, sans problème, assez rapidement. Donc j'ai eu tout de suite ma fille en peau à peau sur moi,
Super.
qui a attrapé le sein toute seule, très mignonne. Et ça s'est super bien passé. C'était un moment d'échange entre nous, fusionnel, et c'était sympa en fait.
Comme tu l'avais imaginé.
Voilà, c'est ça, exactement. C'était extraordinaire.
Ok. Donc ça, c'était la toute première tétée, ce qu'on appelle la tétée d'accueil. Et puis après,
Ça.
voilà, ça s'ensuit quelques jours en maternité. Comment se sont passés les tout démarrages d'allaitement dans le postpartum immédiat?
Les premières tétées sont bien passées, mais au fil du temps, j'ai commencé à avoir des crevasses. Et en fait, à chaque tétée, j'appréhendais la tétée parce que c'était horrible, tellement j'avais mal, en fait. Donc, moi, j'ai essayé de solliciter des sages-femmes à l'hôpital ou des pédiatres, mais elles me disaient que la prise au sein était bonne, il n'y avait pas de souci particulier. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais eu ma montée de lait, tout ça, pas de souci, 2 jours après l'accouchement. Mais je sais pas, je pense que c'était l'instinct. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas.
Donc du coup, t'as pas eu mal tout de suite. Ça s'est installé vraiment
Non.
petit à petit. Tu dirais en combien de jours tu t'es retrouvé à dire vraiment là, il y a un truc qui colle pas.
Bah, je pense au bout de 24 heures, honnêtement.
Ah oui, donc relativement rapidement quand même.
Ouais.
D'accord, ok.
Assez rapidement.
Donc au bout de 24 heures, tu commences à avoir mal, les crevasses commencent à arriver. Tu trouves pas vraiment d'aide à la maternité?
Pas vraiment. La seule chose qu'on m'a proposée, bah, c'était des compresses pour que je puisse faire des cataplasmes en fait avec du lait maternel ou du colostrum. C'était les débuts, mais c'est tout en fait.
Oui, on te proposait de
Pas plus de
soigner
choses.
les crevasses.
Voilà, on cherchait pas la cause en fait.
Ok. Et alors, toi qui t'étais renseignée pendant la grossesse, comment t'as abordé ces difficultés?
Alors déjà dans un premier temps, j'ai envoyé un message sur Instagram à Camille Lolo Helpeuse pour lui expliquer ma problématique et du coup elle m'a envoyé un contact d'une IBCLC donc dans ma région qui vient à domicile en fait. Du coup, bah, je l'ai contactée. Donc c'est Émilie Chevalier et je l'ai vue aux 3 semaines de ma fille. Donc pendant ce temps-là, j'ai fait un peu ce que je pouvais. Je cherchais, enfin, j'essayais de chercher la cause, les bonnes positions, les tensions potentielles. J'ai emmené ma fille chez un ostéopathe et chez une chiropractrice. Sur le coup, après la séance, ça allait. J'avais plus de douleur et ma fille semblait détendue. Mais après, au bout d'un moment, ça revenait en fait. Du coup, voilà.
Ouais, donc
Après,
ça faisait
j'ai
du
pu
bien sur
demander
le
des séances.
moment, relâcher les tensions, ça permettait de
Oui.
calmer un peu les douleurs et puis petit à petit, un peu comme au premier jour, ça s'est remis en place et ça a refait mal.
C'est ça, exactement.
Ok, et donc tu rencontres Émilie Chevalier aux 3 semaines de vie de ta fille. Déjà, t'as tenu 3 semaines avec des crevasses, bravo. Et alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors déjà, pendant enfin, le rendez-vous avec Émile Chevalier, déjà, ce qui m'a rassurée, c'est que les positions étaient bonnes. Donc ça, c'était déjà bien, parce que comme au début, en postpartum, on doute beaucoup. Enfin, pour ma part, en tout cas, j'étais souvent stressée. Donc ça, c'était bon. Et en fait, il s'avère que donc ma fille avait beaucoup de tensions corporelles dues à des freins restrictifs buccaux. Donc, il y avait un diagnostic entre guillemets. Enfin, Il y avait une suspicion parce que comme il n'y a que les docteurs qui peuvent poser le diagnostic.
Ouais, donc là, la consultante arrive et elle se dit, il y a quelque chose dans la bouche de ce bébé qui va pas et qui peut générer tous ces symptômes. Tu connaissais l'existence de ces freins restrictifs, enfin, tu savais que ça pouvait exister et que ça pouvait poser problème. Tu y avais pensé?
Oui, j'avais découvert l'existence des freins restrictifs pendant ma grossesse. Après, je ne m'étais pas trop penchée sur le sujet parce que j'espérais secrètement que ça ne m'arrive pas, parce que je sais que ce n'est pas évident, même en dehors de l'allaitement, d'avoir des enfants qui ont ce type de problématique. Mais du coup, bah, elle m'a un peu expliqué et moi, après, derrière, je me suis vraiment renseignée à fond sur le sujet.
Ok. Donc
Et
tu t'es
voilà.
retrouvé assez rapidement embarqué dans cette prise en charge autour des freins restrictifs
Oui.
de ta fille. Comment ça s'est déroulé? Comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as eu à faire? Voilà, ça servira à des mamans qui éventuellement découvrent au décours comme ça d'une consultation qu'il y a une suspicion de freins restrictifs. Comment ça s'est déroulé pour toi?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma fille n'arrivait pas à ventouser correctement au sein et elle lâchait la succion. Elle lâchait beaucoup la succion. Du coup, Émilie Chevalier m'a donné plein de petites astuces pour l'aider à prendre le sein et optimiser le transfert de lait, notamment en faisant des compressions mammaires pour le transfert de lait. Sinon, je faisais beaucoup la position de la madone inversée. Ça l'aidait. Elle lâchait pas le sein comme ça. Parce que la position de BN, en fait, à cause de ses tensions, ça lui faisait mal. Du coup, elle n'arrivait pas à téter comme ça. Du coup, alors dans un premier temps, donc on est allé voir une chiropractrice formée aux freins restrictifs que l'IBCLC m'avait donné, qui a permis de détendre pas mal de tensions et qui nous a montré tous les exercices à faire pour détendre celle-ci.
Ok, super.
Qui a également confirmé pareil une suspicion de frein restrictif. Donc là, on était sûr vraiment que on était sur cette problématique.
Ok, et alors ça a pris combien de temps pour pouvoir sectionner ce ou ces freins qui étaient restrictifs? Combien de temps de préparation? À quel moment tu as pu sectionner? Et puis, est-ce que tu en as vu les bienfaits?
Alors, faut savoir que moi, j'ai accouché l'année dernière. En février 2020, donc le
Aïe.
mois suivant, on était en confinement
Ouais.
total. Donc, on a pu faire sectionner ses freins à ces 3 mois. Donc, moi, pendant 3 mois, j'ai souffert corps et âme de ces freins.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà. Mais comme j'étais tellement déterminée, je me disais, je m'en fiche, j'ai qu'à souffrir, mais je veux un allaitement exclusif, je veux pas. Passer au lait artificiel. Et parce que j'étais convaincue, enfin je le suis toujours d'ailleurs, de tous les bienfaits sur les enfants à tous les niveaux, que ça soit au niveau affectif, nutritionnel. Voilà, et en plus, pendant cette période-là, avant la section des freins, j'ai eu une candidose mammaire. Parce qu'en fait, comme j'avais tellement mal aux tétons, en fait, parce que vu qu'elle attrapait que les tétons, bah en fait, j'avais mis des coquillages d'allaitement et en fait, à force d'avoir de l'humidité au niveau des tétons, ça a fait des champignons. Et voilà.
Ah ouais, tu t'es fait la totale. C'est vrai que quand les bébés ont une mauvaise succion, qu'ils abîment, enfin c'est quand même le terrain fertile quand ça
Oui.
reste abîmé comme ça pendant longtemps pour qu'il y ait une petite infection en plus qui vienne se loger, et ça a été ton cas. Ok, donc du coup, tu as pu suivre de ça de loin, j'imagine, avec ton IBCLC en attendant que tout réouvre et que tu puisses. Parce qu'en plus, tu n'avais pas non plus l'option aller voir le chiro ou l'ostéo parce que là, tout le monde était en confinement, c'est ça?
Fermé, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, j'ai dû attendre que tout ça réouvre, bah, pour faire une prise en charge.
Ouais, donc tu
Du
t'es
coup,
accroché.
je me suis accrochée, c'est le mot.
Et alors, une fois que tout réouvre, comment ça se passe? À quel moment tu peux avoir rendez-vous pour sectionner ces freins?
Alors, du coup, c'était le 4 avril, donc ma fille avait 3 mois. On est allé voir un ORL réputé en Île-de-France. Et du coup, en fait, il a confirmé, donc il a posé le diagnostic du frein de lèvres et frein de langue restrictif. Où, il nous a conseillé de faire une section, enfin une frénectomie, parce qu'il y avait vraiment des symptômes, même en dehors de l'allaitement. En fait, c'était un bébé qui avait un fort reflux. Du coup, c'était un bébé qui pleurait 22 heures sur 24, donc c'était vraiment compliqué. Du coup, la frénectomie a eu lieu. Et instantanément, après avoir fait cette frénectomie, ma fille arrivait à ouvrir la bouche et je n'avais aucune douleur.
Ah ouais,
Ah,
donc immédiatement.
oui. Immédiatement, ouais. Franchement, c'était vraiment fou, j'y croyais pas.
Ouais, dans ton cas, ça a été hyper rapide là.
Après, c'était juste après la frénectomie. Mais il y avait quand même des petites douleurs qui ont persisté le temps de faire la rééducation.
D'accord.
Mais ça avait rien à voir avec la douleur que j'avais avant, en fait.
C'était possible d'allaiter, c'était devenu supportable et tu faisais plus ça en serrant les dents.
Ah non, 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 c'était bien.
Ok, bon alors super. Donc du coup là on se dit qu'on commence à sortir la tête de l'eau. Bébé ouvre la bouche, ce qui est déjà pas mal pour venir téter. Et tête à peu près correctement. Il y a encore quelques douleurs qui s'estompent petit à petit avec la rééducation. Ça n'a pas été trop dur à faire la rééducation, ça a été pour toi?
Alors, ça a été un peu difficile. C'était surtout la nuit quand il fallait se réveiller et faire des petits exercices. Déjà, quand on est maman les premiers mois, enfin, voire pendant plusieurs années, on a du mal à dormir. Alors,
Ouais.
si en plus faut faire des exercices,
Ouais, surtout quand ton
c'est un
bébé, il
peu.
pleure 22 heures sur 24. Est-ce que ça s'est calmé aussi?
Alors, ça a permis de faire diminuer le reflux, mais il a persisté. Bah, je dirais pourquoi après. Il y avait d'autres problématiques en fait sous-jacentes, mais ça a aidé honnêtement parce que avant sa langue ne bougeait jamais. Elle était toujours au niveau du plancher buccal et suite à la frénectomie et les exercices, bah, sa langue bouge, se colle au palais, etc.
Ok, super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Qu'est-ce qui a continué de mettre à mal ton allaitement?
Alors déjà, faut savoir que ma fille avait beaucoup de selles glaireuses. Elle avait tout le temps mal au ventre, surtout après avoir tété. Elle hurlait, on entendait donc le reflux interne et externe. Donc, il y avait beaucoup de vomi.
Ouais.
Et en fait, on sait que dans les premiers mois, les enfants ont des petites régurgitations, mais là, c'était tout le temps. Et à un moment, en fait, à ces 4 mois, elle a refusé de s'alimenter en fait.
Ah ouais.
Donc on s'est dit, ça sent pas bon là. Du coup, on a
Parce qu'elle
décidé
avait trop
de.
mal.
Oui, en fait, c'est ça. Elle avait aussi fait une association au sein à la douleur en fait. S'alimenter pour elle, c'était devenu une douleur.
Aïe aïe aïe. Elle avait été traitée pour son reflux jusque-là ou pas?
Alors, juste avec du Gaviscon, donc c'était juste pour apaiser, quoi. Du coup, on a vu un pédiatre vers chez nous, qui nous a dit que ça pouvait être un reflux gastro-œsophagien. Et donc, elle a eu de l'inexium. Enfin, je sais pas si on a le droit de dire le médicament, mais en tout cas,
Chichi.
elle a eu quelque chose pour apaiser tout ça.
Ouais, l'inexium est un médicament qui permet d'agir pour que l'estomac produise moins d'acidité ou pas d'acidité et que du coup ça arrête de remonter, enfin que ce qui remonte au moins n'irrite pas plus l'œsophage. Parce que quand on arrive sur du RGO, comme en parle la Camille, on est sur des bébés qui ont l'œsophage qui s'est inflammé en fait. Donc ça, petit à petit, jour après jour, ce liquide acide qui remonte de l'estomac. Et on parle pas du bébé qui régurgite un peu après son biberon. On parle de celui qui reflue en interne et ou en externe. Mais c'est tout le temps et à force. Voilà, jour après jour, ça vient irriter l'œsophage qui un beau jour dit voilà, fini. Moi, je veux plus rien ici parce que j'ai trop mal. Et dans ton cas, ça a été la sanction, elle a arrêté de manger, quoi.
Exactement, mais totalement. En fait, ça s'est fait progressivement, puis plus du tout, en fait.
D'accord.
Du coup, bah moi, j'ai dû tirer mon lait et on lui donnait en fait avec une seringue
D'accord.
parce qu'elle voulait pas du tout le sein, sauf la nuit quand elle se réveillait en tétant, parce que c'est un réflexe un peu physiologique. Mais c'était juste hein, quand même.
Ouais, donc du coup, pipette et lait, tout doucement,
Ouais.
pendant combien de temps ça dure ça?
2 mois, 2 longs mois, c'était très difficile
2 mois de pipette.
moralement. Moralement et physiquement, c'était très très dur.
Donc toi, tu tirais ton lait, t'entretenais ta lactation et tu donnais ton
Ouais.
lait à la pipette. Waouh!
Ouais, et j'essayais aussi faire du pot à pot des lunes de miel pour qu'elles puissent bah, en fait oublier cette
Ouais.
enfin elle avait fait un comment dire enfin oublier la douleur
Ouais, qu'elle avait ressenti quand elle était au
voilà.
sein.
Oui, voilà, c'est ça. Et j'étais en contact presque tous les jours avec l'IBCLC qui me donnait plein de petites astuces, de conseils et qui était ben, un soutien moral en fait. J'avais ma famille aussi, mais en fait dans ma famille personne n'a allaité, donc en fait
Ouais.
j'étais un peu seule, on va dire.
Ouais,
Et du
et ton
coup,
conjoint dans tout ça, comment il le vivait?
alors lui, vraiment c'était, enfin et ça l'est toujours, c'est un soutien vraiment, un gros soutien.
Ouais.
Franchement, il y a des moments où je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir la remettre au sein, je vais devoir passer en tire-allaitement exclusif, mais pour toujours, et je voulais pas ça. Et lui, à chaque fois, il me disait, mais non, tu vas voir, ça, tu vas y arriver, je t'aiderai, je ferai tout ce que tu veux, enfin, je serai là pour toi toujours.
Ouais, faut dire qu'au bout de 2 mois, c'est vrai qu'il y avait moyen de se décourager, parce que quand un bébé s'est pas remis au sein pendant 2 mois, on se demande à quel moment il va le faire. Comment ça s'est décanté tout ça? Est-ce que l'Inexium lui a fait du bien rapidement? Est-ce qu'elle a eu d'autres traitements? Qu'est-ce que vous avez fait pour endiguer ce reflux? Qu'est-ce qui se passait? Vous avez su?
Alors, du coup, après avoir vu ce pédiatre, bon, on a donné le traitement, ça allait mieux, il y avait moins de pleurs, elle semblait plus apaisée, mais bon, ça persistait quand même. Même si c'était moins douloureux, il y avait beaucoup de régurgitation et son poids a stagné. Donc,
D'accord.
même si elle recevait du lait, le poids stagnait, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, on a décidé de consulter un allergologue pédiatrique. Et on a réalisé en fait des tests sur la peau et des prises de sang qui ont révélé de multiples allergies qui pourraient être l'explication de ce reflux persistant, ces problèmes de poids. Et du coup, ben, j'ai dû faire des évictions parce que même s'il existe des laits artificiels pour les polyallergiques, pour moi, c'était hors de question. Je voulais vraiment continuer à lui donner mon lait. Et en plus, dans le cas d'allergie, je pense que c'est ce qui est le plus adapté
Ouais, donc c'est
pour
toi
ma
du coup
part.
qui a fait les évictions pour que dans le lait de ta fille, on ne retrouve aucune trace de tout ce à quoi elle est
Voilà.
allergique. Alors elle est allergique à quoi? Du coup, ça ressemble à quoi tes repas?
Alors, donc elle est
Je bois de
allergique
l'eau.
déjà. Voilà. Elle est allergique du coup aux protéines de lait de vache et à tous les croisés, donc soja, protéines bovines, voilà, lait de chèvre, etc. Au maïs. Attends, parce qu'il y en a plusieurs. Elle était allergique au gluten, c'est plus le cas maintenant. Alors, il y a l'avoine aussi.
Ouais, pas mal de trucs. Comment t'as fait toi pour enlever tout ça de ton alimentation? Est-ce que ça a été facile pour toi?
Alors, ça n'a pas été facile, mais du coup, j'ai été accompagnée de l'allergologue qui avait l'habitude
Super.
de rencontrer des mamans allaitantes dans cette problématique. Moi, étant donné que je suis passionnée de cuisine, donc ça n'a pas trop changé vu que je fais presque tout moi maison.
D'accord.
Mais le problème des protéines de lait de vache, c'est qu'il y en a dans tout, presque. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est industriel ou même dans les gâteaux,
Ouais, ça
dans plein
implique
de
de tout
choses.
faire seul, quoi.
Donc, bah, j'ai acheté des livres de recettes, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, je me suis inscrite sur des groupes. Il y a un groupe Facebook que je recommande, c'est Les mamans qui ont faim APLV. Ça, c'est top, il y a plein de recettes et on s'entraide pas mal entre nous.
Ok.
Et du coup, bah, en fait, souvent, je fais des menus à l'avance et du coup, comme ça, je sais ce que je dois acheter et ce que je prépare. Mais en fait, finalement, on mange bien. Hein. Juste, par exemple, pour cuire les repas, bah, on utilise de l'huile et pas du beurre.
Ouais, c'est des petits ajustements à faire. Voilà. Comme ça, au début, ça bouleverse un peu les habitudes. Et après, une fois qu'on est habitué, en effet, si on a l'habitude de cuisiner soi-même, c'est plus facile que si on avait l'habitude de manger du tout fait.
Par contre, ce qui est embêtant, c'est quand on va chez des gens. Ouais. Parfois, on est obligé de ramener nos repas ou alors on est obligé de communiquer sur les allergies et de faire en fonction de ça. Mais c'est pas toujours évident. En fait, parfois, on a l'impression d'imposer en fait son régime alimentaire aux personnes et c'est pas évident en fait.
Voilà, pour le coup, outre des idéologies et des choses comme ça, là c'est une question de santé. Ta fille.
Oui.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ta fille se pouvait pas bien se nourrir si elle mangeait tout ça. Elle a été... Alors là, on est 2 mois après qu'elle ait arrêté de manger. Toi, tu commences ton éviction. Vous continuez encore combien de temps ces histoires de pipettes et à quel moment elle se remet au sein?
Alors, du coup, c'est de ces 4 mois aux 6 mois, donc on a donné les pipettes et que j'ai tiré mon lait. Et à ces 6 mois, en fait, je pense que ça a joué, j'ai lâché prise, en fait. Parce que j'étais constamment stressée sur le fait qu'elle s'alimentait pas et qu'elle revenait pas au sein. Et je pense qu'elle l'avait senti, que j'étais pas bien. Et j'ai lâché prise. Et je sais pas, c'est revenu petit à petit, en plusieurs jours. Elle est revenue au sein, naturellement. Et j'ai arrêté de tirer mon lait.
T'as lâché prise parce que t'en avais marre de ces histoires?
Aussi, ouais, j'en avais marre aussi. Et...
Tu t'es demandé à ce moment-là si t'allais arrêter? Ou c'était toujours pas dans les options? Tu te disais, non, envers et contre tout, je vais continuer.
J'y ai pensé, mais je me suis dit, non, je vais continuer. J'ai pas fait tout ça pour lâcher, en fait. Et en fait, faut savoir qu'au fur et à mesure des semaines, en faisant les évictions, elle était mieux. Il y avait de moins en moins de régurgitation et on la sentait plus apaisée en fait. Et elle commençait à nous faire des sourires. On n'était plus obligé de la porter toute la journée en portage pour qu'elle soit apaisée. Parce que c'était pas possible de la mettre sur un tapis d'éveil pour qu'elle gazouille et se retourne. Elle pleurait en fait. Elle avait trop mal en fait. Il fallait qu'elle soit verticalisée.
Ok, donc, et une fois qu'elle s'est remise au sein, après, ça a été un long fleuve tranquille, cette histoire?
Pas forcément, puisqu'en fait, il faut savoir que j'ai aussi eu un engorgement, donc au sein droit, parce qu'en fait, elle avait eu des tensions, et du coup, elle avait du mal à téter mon sein droit, du coup, forcément, pas assez drainé, un engorgement.
Ouais, donc c'est la porte ouverte à l'engorgement, en effet, quand un sein n'est pas bien drainé. Comment t'as pu régler ça, ces histoires de tension? C'est un thérapeute manuel qui s'en est occupé?
Exactement, voilà. Et ça a permis de régler les choses, on va dire.
Ok.
Parce que j'ai oublié d'en parler, mais en fait, elle avait le syndrome de Kiss dû à ses freins. Et aussi, en fait, elle avait une mauvaise position fœtale dans mon ventre. Et pendant l'accouchement, j'ai eu des fortes contractions, très très fortes et rapprochées. Et du coup, elle était un peu en banane, si je puis dire.
Ouais. Ouais, les positions assez typiques de ces bébés qu'on estampille syndrome de Kiss. Pour faire un résumé, si jamais quelqu'un n'a jamais entendu ce mot, c'est des bébés qui sont vraiment plus tendus que les autres, quoi, qui ont des tensions telles qu'elles sont vraiment difficiles à faire lâcher. Souvent, c'est lié soit à une position pendant la vie fœtale qu'ils ont gardée et qui les a un peu ou beaucoup bloqués, soit pendant l'accouchement, quelque chose qui se passe pas bien et les tensions restent tellement imprimées dans leur petit corps qu'ils n'arrivent pas à s'en libérer. Et ils grandissent là-dessus, c'est des bébés qui ont des positions parfois un peu fantasques. Ouais, ils font les bananes, la virgule, comme on veut. On choisit le terme qui convient le mieux. Et donc, ta louloute, elle était assez coincée. À quel moment ça a été cool, l'allaitement?
Vers ses 9 mois, à peu près.
Ah ouais, ça a pris du temps.
Ça a pris 9 mois. Le même temps qu'une grossesse, en fait, finalement, quand j'y repense.
Donc là, de ces 9 mois à aujourd'hui, c'est 14 mois. Tout est réglé, ces tensions mécaniques ont été levées. Toi, tu fais attention à ton régime alimentaire et ça roule. Oui. Et vous continuez comme ça. Tu te vois continuer sur ce mood-là pendant longtemps. Qu'est-ce que tu imagines pour la suite de ton allaitement ?
Alors déjà, moi, je souhaite un sevrage naturel, en fait. D'une part, parce qu'en plus, elle a des allergies, donc je souhaite vraiment lui donner le meilleur lait possible. Mmh. Et en fait, ça permet d'avoir une qualité de la flore intestinale, du tube digestif, super. Sachant qu'elle a des allergies, donc je pense que ça contribue fortement à ça.
Bien sûr.
En fait, c'est un bon moment que je passe avec elle pendant les tétés, donc j'ai pas envie de perdre ça.
Je comprends. Ok, très bien. Tu disais tout à l'heure que quand tu parlais des allergies, que désormais elle était plus intolérante au gluten. Il y a des choses qui évoluent déjà à ce niveau-là, parce qu'on sait que les allergies des bébés sont pas forcément des allergies qui persistent tout le long d'une vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus dans ton cas ?
Oui. Alors du coup, en fait, faut savoir que tous les 4 mois, en fait, on doit refaire des tests pour savoir comment les allergies évoluent. Du coup, là, on refait plus de prise de sang parce qu'en fait, c'est pas fiable avant 6 ans. Mais au niveau des patch tests, en fait, le gluten est parti. Donc en fait, une fois qu'au niveau des tests, on voit qu'il ne réagit plus, on doit faire un protocole de réintroduction pour voir si vraiment cette allergie est totalement disparue. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Mmh. Et en fait, il y a des quantités à respecter chaque jour. En fait, on ne remange pas du jour au lendemain du gluten comme avant, hein, parce que le corps n'y est plus habitué. Il peut avoir des réactions par rapport à ça. Et en fait, il n'y a eu aucune réaction. Du coup, j'étais vraiment contente parce qu'en fait, moi, faut savoir que mon frère est boulanger. Donc, c'était un peu compliqué pour moi de plus du tout manger de pain ni de pâtisserie du jour au lendemain. C'est bon, hein, les pains sans gluten, etc. Mais c'est différent, en fait. C'est plus compact. Ouais, c'est différent. Ouais, moi, j'ai pas trop adhéré, en tout cas.
Sœur de boulanger, t'as pas trop adhéré, quand même, au sans gluten.
Non. Et en plus, les recettes, c'est assez long, c'est compliqué. J'en ai raté plein. Non, c'était pas ça, quoi.
Ok, très bien. Bon, donc du coup, voilà, ça ressemble quand même un peu au parcours du combat dans ton histoire, là, pour arrêter.
En plus, j'ai découvert par la suite que moi-même, j'avais des allergies, en fait, mais que je ne le savais pas. En reparlant avec mes parents, il y a eu des symptômes qui ont été évoqués plus jeunes. Mmh. Et même moi, actuellement, j'ai parfois des troubles digestifs. Après avoir commencé les éductions, je me suis sentie mieux. Ah. J'ai compris certaines choses sur moi. Et du coup, en fait, du côté de ma mère, il y a énormément d'allergies. Donc, je pense que, en fait...
C'est pas pour rien.
Voilà, c'est pas ça. Pour rien.
Moi, du coup, t'auras découvert des choses sur toi aussi pour ta santé. C'est pas si mal.
Aux éductions alimentaires, j'ai perdu 14 kilos.
Wow.
Ouais.
Ah ouais, donc c'était vraiment un truc qui allait pas pour toi. Ton corps, il réagissait mal à tous ces trucs que tu mangeais et qui t'allaient pas. Comment t'as fait côté travail ? On n'en a pas parlé, parce que dans cette histoire, est-ce que toi, t'as dû reprendre le travail ? Oui, non. Est-ce que du coup, t'étais à la maison et que c'était facile, entre guillemets ? Ou alors, est-ce que non ? En plus, c'est rajouter la problématique de reprendre le travail.
Alors, moi, du coup, de ma grossesse à mon accouchement, j'étais en fait... j'ai pas travaillé, en fait. Et j'ai repris le travail à ces 10 mois.
D'accord. Donc une fois que ça allait mieux.
Oui, parce que même si je le voulais avant, j'aurais voulu reprendre le travail un peu avant, parce que c'était difficile avec son reflux de vivre dans les pleurs constants, même au niveau du couple, c'est une épreuve. Hein. Du coup, j'ai repris à ces 10 mois. Et en fait, pour permettre de continuer mon allaitement, en fait, j'ai de la chance, sur mon lieu de travail, en fait, il y a une pièce dédiée où je peux tirer mon lait.
Ok. D'accord. Et puis à 10 mois, on ne boit plus autant que ce qu'on boit à 4 ou 5 mois.
Oui, parce qu'elle était diversifiée. Donc, c'était une source d'angoisse en moins, finalement.
Ouais, bien sûr. Tu parlais de ton couple, de la famille, de comment on vit tout ça. Voilà, je Je veux dire, j'imagine, mais non, j'imagine pas, parce que je pense que c'est difficile d'imaginer quand on l'a pas vécu ce que c'est que d'avoir un bébé qui pleure 22 heures sur 24. Au secours. Comment on tient?
Franchement, j'ai beaucoup pleuré, je te cache pas. C'était dur physiquement et moralement parce qu'en fait, dès qu'elle se réveillait, elle pleurait non-stop. En fait, j'arrivais pas à profiter d'elle. En fait, j'ai profité d'elle, je crois, ben, à ses 6, 7, 8 mois, quoi. Mais bah, ce qui tient déjà, c'est le soutien de sa famille. Moi, je sais que parfois ma mère venait ou ma belle-mère à domicile. Et elle s'occupait de la petite pendant que moi, je me reposais, que je faisais d'autres choses. Elle me faisait à manger, elle faisait la vaisselle, le ménage, tout ça, c'est hyper important. Même si on n'a pas un enfant qui a des soucis, je pense que c'est sympa, les premiers mois en tout cas.
Ouais, tout à fait.
Bah, mon conjoint, bah, c'est celui avec qui je suis tout le temps, donc forcément, si on est soutenu, ça aide. Il m'a jamais dit à aucun moment on va passer au biberon ou quoi que ce soit, hein. Ou même on va tout changer, non. Il a toujours été dans mon sens, même par rapport aux freins, etc. Moi, j'avais des doutes, je lui en ai parlé, il m'a fait confiance à 100%. Lui, il connaissait pas grand-chose à ce niveau-là, donc il m'a laissé carte blanche.
Ouais, il t'a laissé gérer et il t'a soutenu, surtout.
Et il m'a surtout remercié après, une fois qu'on a enlevé toutes ces problématiques, puisqu'il a pu profiter de sa fille aussi. Et puis après, il y avait aussi entre mamans sur les réseaux sociaux, on s'est pas mal soutenus, notamment j'ai une amie qui est assez présente sur les réseaux et qui est maman allaitante aussi, c'est The Zèbre sur Instagram. On a beaucoup échangé tous les jours. Voilà.
Ok. Ouais, du soutien, du soutien, du soutien, quoi, pour passer heure par heure, jour après jour, les étapes.
C'est
Ok.
ça.
Ça a changé quoi, Camille, cette expérience d'allaitement pour toi?
Alors, honnêtement, ça a changé beaucoup de choses. Premièrement, sur ma vision des choses dans la vie de tous les jours, je me suis encore plus rapprochée de tout ce qui était naturel, physiologique. J'ai retrouvé un peu le côté animal qu'on a en nous, mammifère, et pas uniquement ce qu'on nous vend tous les jours, d'être un peu détachée de tout ça. J'étais quelqu'un qui avait un gros problème de confiance en moi. Et en fait, d'allaiter, je me suis dit, ah, je produis du lait pour ma fille, je la nourris physiquement, enfin physiquement, au niveau nutritionnel, affectif, je permets qu'elle ait un super développement, c'est cool. Et surtout, je me suis dit, ah, j'ai quand même réussi à tenir les évictions, souffrir pendant tout ce temps-là, et j'ai tenu, donc ça m'a apporté beaucoup de choses à ce niveau-là. Maintenant, je sais pas, je suis une femme forte, j'ai plus de manque de confiance en moi et...
Ouais, donc tu t'es rendu compte à travers cette expérience, parce que l'allaitement c'était important pour toi et que il fallait continuer coûte que coûte, tu t'es rendu compte des ressources que tu avais, quoi.
Exactement, c'est ça.
Qui sont énormes, hein, soyons honnêtes, parce que dans une expérience comme ça, ne serait-ce que de tenir les premières semaines, là, quand tout va mal et que en fait ça s'empire un peu jour après jour entre ce bébé qui tète pas bien, son reflux qui augmente tranquillement, voilà. C'est ouais, en effet, tu peux te dire que tu peux avoir confiance en toi-même, là, il n'y a pas de souci, tu gères grave. Alors, tu donnerais quoi comme conseil aux mamans qui nous écoutent et qui veulent allaiter? Peut-être qu'il y en a une qui nous écoutera et qui est dans une situation un peu comme la tienne. Enfin, on ne va pas lui souhaiter et le coup des freins et le coup des allergies et la totale, mais peut-être l'un ou l'autre, et voilà, qui vit une situation vraiment difficile et qui se dit, peut-être qu'elle n'a même pas le temps d'écouter Milk Shaker d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors, dans un premier temps, donc vraiment se renseigner sur l'allaitement, comment mener un bon allaitement par divers canaux, hein, des réseaux, des livres, des IBCLC. Il y en a qui proposent des petits cours, des petites formations en prénatal. Ouais. D'en parler avec son conjoint aussi, d'expliquer un peu ses envies, ses attentes. D'avoir son soutien, c'est hyper important, hein, parce qu'un enfant, on le fait à deux. on le fait grandir à deux et faut être OK en raccord avec ses choix et de vivre le moment à fond parce que mine de rien, ça passe vite.
Ouais, malgré tout, malgré toutes les galères que tu as eues, tu as trouvé que ça passait vite.
Oui.
Ouais, ça peut être un conseil sympa, c'est de se dire que même dans la tempête, ça passe vite, alors.
Accrochez-vous et ayez du soutien. Si ça va pas, faut en parler à n'importe qui, mais faut en parler parce que faut pas rester toute seule comme ça. Ça peut vite tourner au drame.
Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit et que tu aurais envie de nous dire sur cette expérience d'allaitement?
J'ai oublié de dire, mais du coup, en fait, suite à mon expérience de l'allaitement un peu difficile, j'ai décidé d'être marraine d'allaitement pour une association qui s'appelle
Ouais.
L'Or Blanc.
Ouais.
Parce qu'à mon tour, j'ai décidé d'aider les personnes en difficulté ou non, parce qu'on accompagne aussi des mamans dans leur allaitement qui ont besoin juste de soutien, d'infos. En fait, je me suis pris un peu de passion pour l'allaitement et en fait, le soutien de mère à mère, je trouve que c'est hyper important. Du coup, je me suis engagée. Et voilà, du coup.
Super. Donc tu fais maintenant partie de cette armée de mamans qui aident les autres et qui les soutiennent.
Ouais, j'ai deux filleules actuellement. Et ça se passe super bien. Je suis contente de pouvoir les accompagner dans leur projet d'allaitement.
Moi, génial. Est-ce que tu veux répondre à mon interview Fast Milk avant qu'on se quitte?
Ah oui, bien sûr.
Camille, quelle est ta tétée la plus insolite?
Alors,
Tu dois en avoir, toi, avec un bébé qui avait
oui.
du reflux, on tourne quand même dans tous les sens pour essayer de les faire téter.
Alors, du coup, c'est pas très drôle, en fait. C'était pendant l'enterrement de mon grand-père. C'était dans l'église. Voilà. Mais bon, le connaissant, il aurait rigolé. Il serait. Voilà.
T'as fait ça
Comme
pour
mon
le faire
père a
marrer.
dit, c'était sa première tétée sacrée.
Ok. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement, Camille.
Franchement, pas grand-chose, hein. Attends, je réfléchis. Depuis qu'elle est diversifiée, après, j'ai eu de la nourriture sur mes seins.
Ah, elle te régurgitait
Ouais,
à moitié le repas sur
c'est
les seins, c'est
ça,
ça?
exactement. Voilà, c'est ça.
Quel bonheur. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement, c'est quoi?
Alors moi, c'est la position, maintenant que je peux la faire, c'est la position BN. Je trouve ça hyper sympa,
Ouais.
maintenant qu'elle aime bien.
Donc bébé au-dessus de toi,
On se fait
déposé
un gros
sur toi.
câlin comme ça.
Et si en un mot, Camille, tu pouvais me résumer ton allaitement, quel mot ce serait?
Don de soi.
Ouais, voilà, dans ton cas,
Oui.
c'est vrai que ça y ressemble et qu'on dit souvent, enfin, moi je dis souvent au moment en consultation, quand elles sont dans le dur, un peu au démarrage, que c'est vrai que le démarrage, il y a un côté don de soi hein, dans l'allaitement, parce que c'est très prenant, mais en général, ça dure pas non plus éternellement. Là, dans ton cas,
Non.
c'est vrai que ça aura été un don de soi un peu sur le long cours. Bravo de t'être accroché comme ça. Hein.
Merci beaucoup.
Ouais, c'est impressionnant, vous m'impressionnez toujours de la force que vous pouvez avoir pour allaiter vos chouchous un peu envers et contre tout, parce que quand ça se passe comme ça, c'est vrai que à tout moment tu peux te dire que voilà, enfin, on sait que c'est jamais l'allaitement le problème, mais parfois on le voit comme le curseur qu'on peut abaisser pour que la situation se calme un petit peu et qu'on puisse reprendre un peu de souffle et de ressources. Et voilà. Toi, tu l'as pas vu comme ça, tu l'as vu autrement, et ça fait que du coup, bah voilà, 14 mois, ta chouchoute, elle est encore allaitée, elle a en effet un bon lait qui lui convient bien, parce que tu fais tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait rien qui n'aille pas dans son lait, et voilà, bravo, bravo.
Merci.
Bon, bah voilà, si il y a quelque chose à suivre, Camille, sur ton compte, tu nous racontes tes recettes et tes machins, ou...
Oui, j'ai un compte donc sur Instagram où je parle de mon expérience de maman, de recettes aussi. C'est
Ouais.
maman qui s'y colle sur Instagram.
Donc si vous êtes en éviction de tout et que
Oui.
vous savez plus quoi manger, vous trouvez peut-être deux, trois idées de recettes
Ouais.
sur le compte de Camille, et puis je vous remettrai le nom du groupe Facebook des mamans qui ont faim, c'est ça?
Oui, c'est ça.
PLV. Ce nom de compte est trop rigolo. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire, Camille?
Juste pour vous dire, même si c'est difficile, personnellement, c'est une super expérience que je vis et que je vais vivre. Franchement, chaque jour, je suis super contente d'allaiter ma fille. C'est une fusion super géniale qu'on a entre nous, en fait. Et je pense que le jour où ça va s'arrêter, je vais être triste. Mais honnêtement, je regrette pas du tout. Et je pense que si j'ai d'autres enfants, ça sera pareil. Voilà.
Tu recommencerais? Si c'était à refaire tout ça, tu recommences tout pareil?
Ouais, je recommence tout pareil. Mais par contre, là, je suis pas prête de retourner faire un deuxième enfant parce que ça m'a un peu traumatisée, en fait. Ces premiers mois difficiles avec un enfant qui n'est pas bien, en fait. Mais sinon, oui, ça recommence. Et là, je suis forgée, là, ça y est. Et j'ai une bonne équipe derrière moi. J'ai de la chance d'avoir toujours eu du soutien. J'ai jamais eu de critique là-dessus, bon. Sauf parfois de la part de certains professionnels, mais bon, ça m'atteignait pas vu que j'étais bien accompagnée à côté.
Ouais, t'avais ta team qui te soutenait à fond et c'était plus important que le reste.
C'est ça, c'est ça.
Ouais, bon bah écoute, super Camille, et ben prends ton temps, retrouve les ressources, reposez-vous bien après ces premiers mois de vie si compliqués. Bravo d'avoir tenu, tout court d'ailleurs, hors allaitement. Voilà, c'est un combat, ces bébés qui vont pas bien au démarrage, ça, c'est des postpartum. Voilà, on sait que le postpartum, c'est déjà un moment délicat, alors quand en plus on a un bébé qui va mal, ça tourne franchement parfois à l'enfer. Et voilà, t'en es sortie la tête haute. Bon, tu recommencerais pas demain, mais,
non.
Mais si jamais un jour tu recommences, tu reviendras nous raconter.
Oui, avec plaisir.
Ok, merci beaucoup Camille. Je te dis à très bientôt, et à tous et à toutes. À très bientôt dans Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes et la rubrique Milk Letters. On se quitte encore et toujours avec Emma, la voix officielle de Milkshaker, et son titre I'll Be There, qu'on ne présente plus. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
I hate to see you down. Can't stand to know your hurt. When you say it's getting loud, the voice is in your heart. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. Text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I guide you, I fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. there. Trust me, every time I have your back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, so I'll be there, I'll be there.